t'es sorti si tard. Même le sourire de celle-là, je regarde lui. Radio G, 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elle les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La faillite de 1914 du mouvement ouvrier, de la Deuxième Internationale et de la Fédération syndicale internationale, c'est le résultat de l'œuvre de corruption qu'a permis de réaliser la phase impérialiste du capitalisme. Le Parti socialiste, en 1914, co-organise la boucherie ou la surexploitation. Ce que, au terme de la guerre, beaucoup de membres du Parti socialiste appelleront ce socialisme aux mains rouges dont nous ne voulons pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a des méchants bolcheviques. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'est la responsabilité éminente de ce socialisme aux mains rouges.
Ben oui, la grande bourgeoisie a toujours eu de zélés collaborateurs prétendant être de gauche. Des leaders politiques et syndicaux aux mains couvertes du sang des peuples dont ces félons prétendaient pourtant défendre les intérêts. Salut, c'est JBD, c'est La Voix Off et bienvenue à toi pour ce troisième épisode de notre histoire du congrès de Tours de 1920, événement majeur de la vie politique française puisque le congrès de Tours qui se tient du 25 au 30 décembre, salle du manège, en haut de la rue nationale, ce congrès est l'acte de naissance de ce qui deviendra le Parti communiste français. En 1920, le Parti socialiste s'appelle la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière fondée en 1905. Et au congrès de Tours de 1920, la SFIO se scinde en deux. Comme on l'a déjà vu avec notre ami André lors des deux premiers épisodes de cette saga, ces divisions entre authentiques socialistes révolutionnaires et socialistes dits réformistes, qui collaborent avec la bourgeoisie, ces dissensions existent en fait dès l'apparition des divers courants socialistes au XIXe siècle. Climax de cette collaboration des réformistes avec la bourgeoisie, la prétendue Union sacrée lors de la Grande Boucherie de 14-18, massacre mondial qui fait 1 300 000 morts du côté français et près de 20 millions de morts au total. Autre trahison socialiste, Allemagne 1919, main dans la main avec l'armée et le patronat, le gouvernement prétendument socialiste de la République de Weimar fait massacrer les communistes qui mènent la révolution spartakiste sur le modèle bolchévique. Cette sanglante trahison des socialistes sera lourde de conséquences et contribuera notamment à l'ascension d'Hitler au pouvoir. En Russie, les bolcheviques ont réussi leur révolution démarrée en 1917, malgré la résistance des armées tsaristes appuyées par l'agression militaire d'une quinzaine de puissances occidentales, dont l'Allemagne et la Pologne, qui volent d'immenses territoires aux Russes, qu'on appellera bientôt les Soviétiques. En 1919, les bolcheviques qui entendent diriger les communistes du monde entier fondent la Troisième Internationale. Pour adhérer à cette Troisième Internationale, les partis communistes du monde entier doivent se plier à 21 conditions très strictes destinées à interdire l'adhésion des socialistes mous et autres sociotraîtres. Et c'est ce qui déclenchera la scission de la SFIO. Pour éclairer cette époque troublée et révolutionnaire, place aujourd'hui à l'historienne Annie Lacroix-Riss, professeure émérite à l'Université Paris 7 et auteure de nombreux ouvrages plus renversants les uns que les autres sur les stratégies plus ou moins discrètes des capitalistes, hein, puisqu'il ne faut plus utiliser le mot complot, c'est très mal poli. Annie Lacroix-Riss, bonjour.
Bonjour.
Alors on rappelle que vos travaux d'historienne vous amènent à dire des choses mal polies et très désagréables pour les oligarchies financières, des choses d'autant plus désagréables que ce que vous avancez, vous le démontrez avec des preuves, des sources, des archives impitoyables qui, croisées entre elles, établissent des faits selon la méthodologie de cette science humaine qu'est l'histoire. Et aujourd'hui, on va le voir, vous allez aussi dire des choses très désagréables pour des politiques et des syndicalistes qui se prétendaient pourtant socialistes, mais corrompus, achetés par des capitalistes. Bah oui, il va être aujourd'hui question de corruption. Alors Annie Lacroix-Risse, si c'est au congrès de Tours de 1920 que la SFIO se divise en deux, les conflits entre socialistes révolutionnaires et socialistes réformistes couvaient bien avant le traumatisme de la grande boucherie de 14-18.
La Première Guerre mondiale accouche d'un monde nouveau. D'un monde nouveau, dans des circonstances qui ne sont évidemment pas entièrement nouvelles, parce que les conflits étaient déjà ouverts avant la Première Guerre mondiale. Ils avaient été mis au jour par des discussions des années 1890. On pouvait même remonter plus loin, puisque Marx, en 1875, avait brocardé le réformisme, le détachement de la Révolution de ce qui était devenu le Parti social-démocrate allemand. Le congrès de Tours, évidemment, ça pose la question du communisme français et de la division du mouvement social-démocrate français. Le congrès de Tours, il est annoncé par tous les débats des années 1890 qui se précipitent en 1899 quand, à la faveur de l'affaire Dreyfus et de cette coalition entre la bourgeoisie dreyfusarde et certains courants social-démocrates, se pose la question de la participation ministérielle. C'est une question en permanence abordée qui est absolument liée à l'évolution du capitalisme vers l'impérialisme. Lénine l'analyse en pleine guerre dans ce petit ouvrage de 1916, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, où il reprend toutes les analyses antérieures, des analyses en particulier d'ailleurs qui remontent à Engels, et c'est Engels qui, un des premiers, mesure l'évolution qui s'est faite à l'intérieur des mouvements social-démocrates, et en particulier, évidemment, de ce qui lui a servi de base d'analyse, c'est-à-dire l'Angleterre. Parce que c'est à partir de son analyse de l'Angleterre, c'est à partir de sa critique d'un ouvrage maître qui est en 1845 « La situation de la classe laborieuse en Angleterre », qui fait une analyse qui rompt clairement, je dirais, avec l'espèce d'angélisme qui a caractérisé la première phase de l'histoire du socialisme, enfin du socialisme, y compris d'ailleurs partagé par Engels, puisque en 1892, Engels dit « ben voilà, moi j'ai cru que la révolution viendrait du mouvement socialiste britannique, eh bien je me suis trompé ». Il explique avec beaucoup d'humour, les marxistes ont toujours été pleins d'humour, c'est la violence de l'anticommunisme, transformer les communistes en espèces de bonnets de nuit répressifs, méchants, etc. Alors que n'importe qui lit Marx, Engels, Lénine et d'autres, est quand même très frappé par l'ironie, l'humour même, hein, même quand il est un peu méchant, qui se dégage des textes marxistes depuis l'origine.
Bah oui, Annie Lacroix-Risse, hein, vous, les rouges, vous ne pouvez avoir que tous les défauts.
Tant souvent, on est très marrant. Hein. On a quand même l'esprit très critique. On a même l'esprit très critique sur nous-mêmes. Hein. C'est ce qui a fait, je dirais, un des critères, d'ailleurs, des nouveaux partis communistes, même si ça n'était pas clairement dans les 21 conditions, je dirais que ça l'était en filigrane, c'est-à-dire l'autocritique, la capacité de voir qu'on s'est trompé et par conséquent qu'il faut orienter autrement le cours. Et qu'est-ce que dit Engels, qui sera évidemment repris par Lénine ? Il avait pensé en 1845 que la situation était révolutionnaire et que l'évolution du capitalisme a rendu cette analyse périmée. Et il fait là déjà une analyse de l'impérialisme, c'est-à-dire qu'il montre par la division du Parti social-démocrate, donc qui est le Parti travailliste en Angleterre, le Labour, il montre qu'il s'est opéré une vraie cassure entre, d'une part, ce qu'il appelle l'aristocratie de la classe ouvrière. C'est l'expression que Lénine reprendra à partir des années 1890. Une aristocratie de la classe ouvrière, en plus présentée de manière très rigolote, il faut lire l'extraordinaire traduction édition de 1960. Il explique que, et alors là il sort d'ailleurs du strict cas britannique, ces socialistes qu'il avait cru révolutionnaires, ces socialistes, dit-il, ils sont aperçus que finalement, on pouvait en effet réformer, améliorer les systèmes. D'ailleurs, il s'est beaucoup amélioré pour eux. Ils ont fini par trouver que finalement, les grands patrons étaient plutôt sympas et ils sont devenus des représentants d'une aristocratie de la classe ouvrière qui ne comprend pas, qui ne peut plus comprendre parce que ses conditions de vie sont trop différentes, qui ne peut plus comprendre la masse de ceux dans lesquels le communisme a confiance, c'est-à-dire la masse des travailleurs, fondamentalement les ouvriers. Et ce qu'il montre, c'est que des ouvriers de 1845 aux ouvriers de 1892, en masse, le sort n'a pas beaucoup été amélioré, voire même à peine. Il montre qu'à Londres, c'est toujours aussi pénible. En 1892, dans les quartiers populaires ouvriers de Londres qu'en 1845. Mais, en revanche, ces aristocrates de la classe ouvrière, ils trouvent que finalement, ma foi, le patronat, c'est assez sympathique, le grand patronat, on les a flattés. Et comment les a-t-on flattés? C'est Lénine qui voit le déploiement de la phase impérialiste. C'est Lénine qui tirera toutes les conclusions de cette division de la classe ouvrière, qui est aussi une des conséquences de la corruption que l'impérialisme a été en mesure de réaliser au sein du mouvement ouvrier. Pourquoi ? Parce que les surprofits du grand capitalisme concentré, réalisés notamment par la conquête coloniale, par ce qu'on a appelé à partir des années 1880 le Scramble for Africa, la course à l'Afrique, sans parler du partage de l'Asie, etc., que tout ceci apportait des surprofits dont on pouvait réserver une miette à la conquête de cette aristocratie de la classe ouvrière. Alors, Engels est déjà méchant, ne parlons pas de Lénine. Quand on lit la brochure de 1916 de Lénine, on a tous les éléments qui vont conduire aux scissions des partis social-démocrates et à ce qui est, au fond, une rectification qui est en cours depuis les années 1890. Il y a à l'intérieur des partis social-démocrates des forces dont les intérêts de classe sont complètement antagoniques. Avec l'anticommunisme ambiant, l'idée qu'on a, c'est que, mais qu'est-ce que c'est que cette idée grotesque que d'avoir fondé un nouveau parti, finalement scissionniste, alors qu'il fallait développer l'union commune. C'est intéressant parce que ça pose la question de ce mythe de l'union de la gauche. Si la gauche est fondamentalement partagée depuis l'ère impérialiste, clairement, entre d'une part des militants qui se battent au nom des intérêts de leur classe pour réaliser le programme de transformation profonde, si on est dans une situation où il n'y a rien de commun entre ces militants et ceux qui, de manière discrète, je dirais aujourd'hui plus discrète du tout, et dans le courant de la Première Guerre mondiale, pas vraiment discrète, on va voir pourquoi, de manière discrète ou pas discrète, sont purement et simplement sur les positions de leur propre patronat, finalement, ce qui est une situation absolument inexorable, c'est-à-dire si une partie du mouvement ouvrier avait rejoint la bourgeoisie, il était absolument indispensable que l'autre partie du mouvement ouvrier, qui se voulait radicale, qui voulait changer de système socio-économique, en ayant depuis le 19e siècle fait l'analyse que le capitalisme n'était pas amendable, que analyser le capital et le salaire, analyser le capitalisme, c'était comprendre que à un pôle s'accumule du travail mort qui est le capital et que à l'autre pôle le capital vivant, enfin les salaires, la masse des salariés vont représenter quelque chose qui est de moins en moins important, c'est-à-dire que le capital et le salaire croissent de manière absolument inverse. La conclusion à tirer dès 1848, c'est qu'il fallait établir le communisme. Et de 1848 à 1914, en fait, le mouvement social-démocrate, il se déchire et il est profondément déchiré. Finalement, on explique à la masse des ouvriers que c'est cet État, expression des intérêts de classe, du capital et de plus en plus avec l'impérialisme de ce que Lénine appelle le capital financier, c'est-à-dire cette fusion du grand capital industriel et du grand capital bancaire, que cette situation mène la masse de la population à l'appauvrissement et donc à l'impasse, qu'il n'y a pas de solution. Et c'est ça qui ressort de toutes les discussions des années 1890, avec des spécificités par pays. Et je dirais que en matière de création du Parti communiste, le cas français est un cas particulièrement intéressant. Parce qu'il y a un mouvement de masse, il y a quand même un mouvement socialiste qui a été fort important, qui, à la veille de 1914, a une petite majorité relative, enfin une partie. C'est encore plus vrai en Allemagne ou en Angleterre et surtout en Allemagne. Mais ce parti, il est profondément divisé et ses dirigeants sont passés de l'autre côté. Ils ne l'ont pas annoncé à leurs militants. Ils ne l'ont pas annoncé à leurs électeurs. Leurs électeurs, depuis qu'on sait que l'impérialisme va régler ses rivalités dans la guerre, et on le sait de manière formelle, depuis les années 1890. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les fonds du Quai d'Orsay. La question qui est posée avant 1914, c'est pas s'il y aura la guerre. C'est quand il y aura la guerre, et on voit très bien que les foyers de conflit issus de la rivalité entre impérialisme à l'extérieur de l'Europe, à l'intérieur de l'Europe, s'aiguisent tellement qu'on va vers une guerre générale. Or, en préparant cette guerre générale que tout le monde attend, que fait le mouvement socialiste international, la deuxième internationale constituée en 1889, d'autre part la Fédération syndicale internationale qui sera dite d'Amsterdam, qui a d'abord été dominée par le mouvement socialiste allemand, parce que c'est le mouvement socialiste allemand qui est quand même le plus puissant avec celui d'Angleterre. On se trouve donc dans une situation où, finalement, pendant au moins 15 ans, les partis social-démocrates trompent leur électorat et les masses qui leur font confiance. Parce que on se met, surtout à partir du XXe siècle, à clamer tous les jours qu'on va vers la guerre, qu'on voit bien que les conflits coloniaux, les conflits internes à l'Europe vont mener à la guerre, je le rappelle, les conflits en Afrique, la question marocaine, les guerres balkaniques, on est sur un volcan, exactement d'ailleurs comme nous sommes sur un volcan aujourd'hui. On est sur un volcan permanent et les congrès serinent que, voilà, on lèvera ses armes contre la bourgeoisie. Plus personne n'y croit. À l'intérieur de l'appareil, plus personne n'y croit. Et je vais choisir le cas français puisqu'on va parler du congrès de Tours. On est arrivé, dans le cas français, à une situation où, avec ce discours, coexistent des pratiques qui sont des pratiques de collaboration des classes, c'est-à-dire de collaboration clandestine entre, d'une part, les dirigeants de la CGT et les patrons, d'autre part, le Parti socialiste constitué en 1905 que la seule chose qui est intéressée essentiellement par la participation ministérielle ou par les modalités du soutien au système tel qu'il est. Cependant, qu'on dit aux travailleurs que, bien sûr, on va préserver la paix, qu'on fait des congrès internationaux, je dirais avec plus ou moins de conviction. Hein. Moi, je ne vais pas faire un procès d'intention à Jean Jaurès, qui s'est avéré, bien que réformiste sur des tas de points, et d'ailleurs le revendiquant, qui s'est avéré tout de même un des leaders socialistes les plus honnêtes, les plus vaillants, les plus courageux. Mais tout ce qu'on peut constater, c'est qu'au moment où il est assassiné, le 31 juillet 1914, la quasi-totalité du mouvement socialiste et syndical français est passée de l'autre côté. Hein ? Sur le plan social et politique, il y a une excellente analyse dans la synthèse de Jacques Pauwels qui s'appelle « La guerre de classe » et qui est une analyse de la Première Guerre mondiale. Il n'y a qu'une minuscule minorité qui met en garde contre l'abandon du marxisme et des objectifs, c'est-à-dire de l'abolition du capitalisme. C'est ça la réalité d'avant 1914. Et Jaurès, il a été un des porte-parole de la paix, c'est même la raison pour laquelle la droite l'a dégommé, la droite et ce qu'on appelle les partis républicains, a finalement agréé son assassinat après la guerre en acquittant l'infâme Raoul Villain.
Raoul Villain est le nationaliste qui assassine Jean Jaurès à la veille du déclenchement de la guerre de 14-18. Villain sera très rapidement acquitté en 1919. On remarquera que Dreyfus, qui était innocent des faits qui lui étaient reprochés, passera lui bien plus de temps derrière les barreaux que Villain, coupable.
Qu'est-ce qui se passe au lendemain de la mort de Jaurès ? Un des éléments qui met en lumière l'abdication qui va conduire Lénine, le chef de la petite fraction bolchevique, à dire « cette deuxième internationale est morte, c'est fini, il va falloir qu'on fasse autre chose parce qu'on n'en tirera rien », au lendemain de tout ça, ceux qui ont le plus clamé la révolution, ceux qui ont le plus chanté de la grève générale, des fusils retournés contre la bourgeoisie, eh bien, ils sont à l'avant-garde de l'abdication. Finalement, les questions syndicales et les questions politiques, elles sont beaucoup plus étroitement liées qu'on ne le pense, et ce, depuis l'origine. On doit se tourner vers ce qui est factuel, hein, c'est-à-dire le discours immédiat de ceux qui ont promis que les fusils se retourneraient contre la bourgeoisie. Alors, un exemple, c'est le discours de Jouot, anarcho-syndicaliste hissé à la tête de la CGT, d'une CGT en situation bien plus difficile qu'on ne peut penser en 1909, puisque en apparence, évidemment, le mouvement syndical progresse, etc., et qui, à ses obsèques de Jaurès, le 4 août 1914, c'est-à-dire la guerre déclenchée, est capable de rendre un hommage à Jaurès en expliquant qu'il faut y aller, parce que c'est une guerre juste. Voyons cet extraordinaire discours. Et que dire à l'ombre où s'ouvre cette tombe avant des milliers d'autres tombes, hein, comme on le sait, ça n'a pas été des milliers, mais un certain nombre de millions. Que dire de l'immense douleur qui étreint nos cœurs, obscurcit nos yeux. Jouot aimait beaucoup le style héroïque. L'heure sanglante a sonné contre notre volonté. Bon, ben, contre notre volonté. Mais, bien entendu, on va y pousser les salariés et les paysans. Ami Jaurès, tu pars, toi, l'apôtre de la paix, de l'entente internationale, devant le monde atterré, la plus terrible des épopées guerrières qui ait jamais ensanglanté l'Europe. Et voilà, alors j'en passe et des meilleurs. Cette guerre, c'est pas de notre faute, voilà. Nous, on a tout fait pour faire triompher la paix. La classe ouvrière, le cœur meurtri se soulève d'horreur, hein. Elle se souvient, là, cette classe ouvrière qui s'est toujours nourrie des traditions révolutionnaires, des soldats de l'an 2. L'essentiel, ce n'est pas la haine d'un peuple qui doit armer son bras mais son bras doit être dirigé contre la nation, victime de ses despotes et de ses mauvais bergers. Ben, c'est pas la France, hein. Empereur d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, obreux de Prusse et grands seigneurs autrichiens qui, par haine de la démocratie, avaient voulu la guerre, nous prenons l'engagement de sonner le glas de votre règne. Bon, c'est-à-dire que notre guerre est juste. Hein? Nous, c'est la guerre de l'an 2. On est 4 jours après l'assassinat de Jaurès. Jour, résume-là, la position de l'ensemble des social-démocrates. Alors, le discours que je viens d'évoquer, c'est un discours tout à fait magnifique, héroïque, tout ça, lyrique. Bon, mais la réalité, c'est quoi? La CGT est utilisée à partir de là, j'entends ses cadres, sa direction, comme espèce de co-organisateur de l'exploitation de la classe ouvrière pendant la Première Guerre mondiale. Qui va assurer de manière très efficace la discipline dans les usines? La discipline des ouvriers, la discipline des ouvrières. Nul ne se fait d'illusions chez ceux qui savent, hein, qui est-ce qui conduit la Première Guerre mondiale. En France, le Comité des Forges, la Banque de France, la Grande Chimie, etc. Et ailleurs, c'est la même chose. Hein. Le Parti Socialiste, en 1914, il participe, co-organise la boucherie ou la surexploitation. Parce que tous les ouvriers ne sont pas envoyés sur le front, c'est les paysans essentiellement qui sont envoyés sur le front. Paysans auxquels, par exemple, en Italie, hein, on promet d'attribuer la terre dont la non-détention a fait que l'Italie est devenue une terre d'exil considérable et qu'elle a largement meublé les effectifs industriels de la nouvelle puissance impérialiste montante, c'est-à-dire des États-Unis. On est donc avec un cas type. Il est majeur dans la scission, dans le refus évidemment, de se plier aux 21 conditions pour devenir un parti communiste, c'est-à-dire le rôle de quelqu'un comme Léon Blum. Parce que Léon Blum fait en France l'objet d'un véritable culte. Je ne sais pas combien de fois on a eu droit à un film qui est passé au moins sur 2 chaînes, nous expliquant que c'est quand même grâce à Léon Blum que les ouvriers français ont bénéficié de 2 semaines de vacances. La réalité, c'est quoi? C'est que Léon Blum est une espèce de cas type du mode de gestion et de direction de ce qui est devenu en 1905 la section française de l'Internationale ouvrière, c'est-à-dire de la Deuxième Internationale. Hein. Puisque je rappelle que ces partis socialistes, chaque parti est une section de l'Internationale. Et Blum est un homme de la bourgeoisie, qui appartient à la bourgeoisie, plus qu'à la moyenne bourgeoisie. Je dirais qu'il n'a de lien qu'avec la bourgeoisie, et ce jusqu'à sa mort, et qui, pendant cette guerre, est une espèce de symbole de ce que, au terme de la guerre, beaucoup de membres du Parti Socialiste appelleront, ou de paysans, ce socialisme aux mains rouges dont nous ne voulons pas. C'est-à-dire que on a fait venir à des strapontins de fait, parce qu'ils couvrent une politique qui n'est même pas la leur. Je pense à l'extrême droite du Parti Socialiste, mais Blum en a été toujours un élément majeur, en fait, sous couvert d'être centriste. Eugène Thomas, c'est-à-dire Marcel Samba, ministre impliqué directement dans l'armement, dans l'organisation de l'exploitation du travail ouvrier pendant la guerre. Et donc, Blum a passé toute la guerre à soutenir Marcel Samba, à fréquenter les patrons, etc. Tout ça, on ne le sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a des méchants bolcheviques, oh là là, qui en ont voulu à tout le monde et qui ont voulu éliminer tout le monde. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'est la responsabilité éminente de ce socialisme aux mains rouges. Il faut savoir que Jouot, par exemple, quand en 1915, l'opposition du peuple italien est particulièrement violente, et elle est particulièrement violente en 1915, au bout de quelques mois de boucherie, tout le monde a compris, hein? Mais une guerre, quand elle est déclenchée, on peut tout de suite avoir compris qu'on s'est fourvoyé dedans, Mais après, c'est fini. Hein. Le mouvement ouvrier, il n'a pas la gestion de la guerre. Et par conséquent, ces joueaux qu'on envoie en Italie pour convaincre les syndicalistes italiens qu'il faut y aller aussi. Et c'est ce qu'il a fait. Ce manquement, que d'aucuns appellent trahison, mais je réserve le terme de trahison, je dirais, à sa définition juridique qui est celle de l'intelligence avec l'ennemi, en tout cas avec l'ennemi extérieur. Hein. Bon, mais après tout, moi, ça me choque pas hein, qu'on parle de trahison des intérêts classes, parce que il faut le noter, on enregistre peu de trahisons dans le camp patronal. Il n'y en a pratiquement pas. Alors que des trahisons dans le camp d'en bas, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup précisément parce que le camp patronal, le camp étatique sont en mesure de créer ces trahisons. Moi, des trahisons de représentants du grand patronat, je ne sais même pas si je peux en recenser une depuis l'existence au début des années 20 de la Confédération Générale de la Production Française, c'est-à-dire de l'ancêtre du MEDEF, alors qu'en revanche, évidemment, les passages de l'autre côté sont fréquents.
Comment les capitalistes s'y prennent-ils pour corrompre des leaders socialistes et syndicaux ? Or, s'agit-il simplement de faire passer des mallettes de fric sous la table, hein, pour fluidifier les relations sociales, comme on dit parfois au MEDEF ou à l'IUMM ?
Alors, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs au centre du bouquin là, que je viens de publier chez Delga sur les scissions syndicales. Parce que dans une société fondée sur l'inégalité de classe, ceux qui ont le pouvoir sont en mesure d'obtenir des résultats, en particulier en matière de conquête idéologique et pratique, que bien entendu, le camp d'en bas est incapable de réaliser. Le terme de corruption, sur lequel Lénine comme Engels sont particulièrement féroces, ils couvrent des réalités diverses qui toutes relèvent de la corruption. Qu'est-ce que c'est que la corruption ? Dans son sens banal, hein, c'est l'achat d'une conscience, c'est l'achat d'un individu par celui qui, détenteur d'avantages en nature ou en argent, est capable de réorienter et même de basculer complètement le choix initial de quelqu'un. Cette corruption, je dirais qu'elle est diverse. Elle a toujours une base matérielle. Elle va de la séduction. Comment est-ce que vous pouvez séduire un chef syndicaliste ou un chef politique ? Moi, il se trouve que j'ai vu le documentaire sur Strauss-Kahn. Bon, Strauss-Kahn est quand même issu du milieu de la bourgeoisie, tout ça, mais de ce milieu de la bourgeoisie qui, dans les années 60, voilà, se sentait quand même un peu révolutionnaire, voulait un peu changer les choses. Mais comment on fait quand on est un grand patron ? Eh bien, on invite, on flatte. Exactement comme Belin, le second de Jouot, son lieutenant de l'entre-deux-guerres, hein, puisque Jouot il reste à la tête de la CGT, sera flatté, sera embauché par les Sinarques, purement et simplement embauché avec un officier traitant, qui est le directeur général de la banque Worms, Jacques Barnaud. Alors qu'est-ce qu'on lui fait ? On l'invite. Aujourd'hui, on invite sur les plateaux de télé, on invite à la radio, on assure un public. Et ils l'invitent et ils le trouvent remarquable. Quand ils sont entre eux, ils disent « qu'est-ce que c'est que ce crétin de postier ?» Mais ils le flattent. C'est la flatterie. C'est faire miroiter des avantages parce que la flatterie n'est jamais purement désintéressée. « Oh, vous êtes, écoutez, intelligent comme vous êtes. » C'est Irving Brown qui le fera.
Irving Brown était un agent de la CIA maquillé en syndicaliste de l'AFL qui, après la Seconde Guerre mondiale, va corrompre des politiques et des syndicalistes européens qui se prétendaient de gauche.
À partir de la conquête par la CIA et le département d'État du mouvement ouvrier européen, pas seulement dans la zone d'influence américaine, dans la zone d'influence que les États-Unis veulent conquérir, c'est-à-dire l'Estromprie, hein. Là, c'est un peu plus clandestin, mais ça se fait quand même. Alors, comment fait-on ? Eh bien, on fait comme Irving Brown. C'était l'argent de l'appareil d'État. C'était un énorme argent, parce que autant d'argent que Irving Brown en a disposé, puissance extraordinaire de l'impérialisme américain en 44-45, et à cet égard, d'ailleurs, la puissance de corruption n'a pas régressé beaucoup. Il s'en va voir un syndicaliste, à qui il dit « Oh, mais alors, qu'est-ce que vous vous rendez compte ?» Un homme, parce qu'à l'époque, c'est plutôt des hommes, un homme aussi compétent que vous, vous n'avez même pas de secrétaire, vous n'avez même pas de voiture. Eh bien, mais ça se faisait comme ça dans les années 1890. Il n'y avait pas de voiture. Mais enfin, vous vous rendez compte, là, vous trimez bêtement, vous pouvez progresser de l'usine, du bureau, jusqu'au sommet de la société. Ces occasions de corruption sont des occasions permanentes que peuvent seuls manier ceux qui détiennent l'argent et le pouvoir. Il y a deux tactiques de la part du patronat pour casser le mouvement ouvrier. Il y a évidemment la tactique de la force, qui n'a jamais disparu. Elle n'est que de voir aujourd'hui d'ailleurs, bien qu'en apparence ce soit seulement l'État. C'est évidemment de casser, c'est de réprimer, c'est d'utiliser l'armée au 19e siècle, en 1914, la police, surtout l'armée d'ailleurs à l'époque, contre les grèves. C'est aussi d'utiliser des auxiliaires qui passent ouvertement pour ce qu'ils sont. C'est dans la fin du 19e siècle, la constitution de ce qu'on appelle les syndicats jaunes, qui sont officiellement des éléments de corruption, de frappe indirecte du patronat. Et c'est de séduire, car le patronat, comme le montre très bien Engels dans sa préface, il a séduit beaucoup de ses dirigeants syndicaux. Alors, ça pouvait sembler plus difficile, plus délicat en 1914, parce que il y avait encore dans le syndicalisme une forte représentation d'origine ouvrière. Tête du Bureau international du travail, espèce de symbole d'après Première Guerre mondiale de la capacité des classes dirigeantes de corrompre une couche d'aristocratie ouvrière. Le nouveau directeur général du Bureau international du travail, c'est un intellectuel recruté à l'origine par les syndicats, qui est tout à fait significatif de ce que sera la CGT dans l'entre-deux-guerres, de ce qu'elle est redevenue d'ailleurs, de ce qu'elle redevient aujourd'hui, et de tous les syndicats réformistes, dont le réformisme d'ailleurs ne se dissimule même plus en cette étape, c'est-à-dire des intellectuels, souvent d'origine bourgeoise, auxquels cette promotion à l'intérieur du syndicat assure de jolies carrières. Il y en a beaucoup dans l'entre-deux-guerres, et ce qui est aujourd'hui un phénomène dominant, c'est caractéristique, moins d'ailleurs de l'avant 14 que de l'entre-deux-guerres, mais ça se perçoit dans l'avant 14, dans les réflexions d'Engels et de Lénine, comment une partie de la jeunesse bourgeoise s'en va faire mine de servir la classe ouvrière en orientant la classe ouvrière vers la collaboration de classe. Collaboration de classe, c'est un concept très clair. Officiellement, je collabore avec ma classe d'origine, celle que je suis supposé défendre au parti ou au syndicat. Pratiquement, j'ai changé mon orientation. Et cette séduction, elle a commencé, elle s'est déployée à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Et elle a atteint, à la faveur des miettes qu'autorisait l'enrichissement de l'impérialisme, elle a favorisé cette situation qui éclate en 1914. La faillite de 1914 du mouvement ouvrier, de la Deuxième Internationale et de la Fédération syndicale internationale, c'est le résultat de l'œuvre de corruption qu'a permis de réaliser la phase impérialiste du capitalisme. C'est-à-dire cette petite miétoune du dessus qui permet de séduire une partie non négligeable, parfois dominante, de la direction des syndicats et des partis pour les mener, ma foi, sur les objectifs du patronat.
Je n'ai pas peur.
Officiellement, et ça alors, c'est quand même extraordinairement proche de la situation d'avant 39 et surtout d'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où une partie très importante de l'appareil ouvrier est en fait sur les positions du patronat, mais ne l'a pas raconté. Ça se traduit par une participation ministérielle qui finit par se heurter dans la boucherie de la guerre. Et pas seulement la boucherie, dans l'appauvrissement considérable des ouvriers, parce que c'est bien joli, même dans la métallurgie, d'avoir une hausse nominale des salaires, mais l'inflation des prix est pendant la Première Guerre mondiale telle que la classe ouvrière, même qui travaille dans les usines de guerre, elle a perdu considérablement de son pouvoir d'achat. Mais au-dessus, il y a cette couche dirigeante plus contestée qu'avant, puisque c'est ça qui est en vérité à l'origine de la naissance du mouvement communiste international. Il faut bien le comprendre, l'éclatement des contradictions de l'impérialisme qui débouche sur la Première Guerre mondiale provoque des ébranlements considérables, pas seulement territoriaux, pas seulement de partage-repartage du monde, comme l'exposait très clairement Lénine en expliquant que l'impérialisme, il est caractérisé par le partage du monde et par le repartage du monde. Parce que la guerre, c'est un repartage. Hein ? À un moment donné, on arrive à des compromis. À un moment donné de crise, ces compromis ne sont plus négociables. Et c'est comme ça que se déclenchent les guerres, qui ne sont pas dues du tout à la peur de la révolution, vu que la révolution, le danger en était nul à la veille de 1914, qui sont le fruit de contradictions ingérables, de contradictions à l'intérieur de l'Europe, de contradictions mondiales, qui se traduisent évidemment par les conflits coloniaux. C'est dans cette situation que l'international socialiste a abdiqué toutes ses motions de congrès, toutes ses réunions d'avant 1914, tous ses trémolos dans la voix qui n'avaient en fait aucune substance. Parce que la substance, c'est celle de la collaboration de la droite majoritaire du Parti Socialiste, de la section française de l'Internationale Ouvrière, à une guerre qui est une catastrophe pour le peuple français. Évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les guerres. Hein. Une guerre qui est une guerre de repartage impérialiste. Je dis bien, ce n'est pas le cas de toutes les guerres. Et d'ailleurs, ce contraste effarant entre un socialisme aux mains rouges qui a soutenu la boucherie jusqu'au bout, qui n'a pas pu d'ailleurs la soutenir jusqu'au bout parce que la SFIO a dû quitter le navire officiellement en 1917. Tellement l'opposition montait contre la collaboration de ce socialisme aux mains rouges. Mais en fait, les choses ont continué, même si à partir de 1917, c'est clair, elles ne sont plus possibles comme avant.
Je retourne ma veste, toujours du bon côté.
L'opportuniste de Jacques Dutronc semble avoir été écrit pour notre émission d'aujourd'hui où l'historienne Annie Lacroix-Risse nous rappelle qu'il y a toujours eu des politiques et des syndicalistes supposés être socialistes mais corrompus par des capitalistes. Ce qui explique notamment la scission de la SFIO lors du congrès de Tours de 1920, après le traumatisme de 14-18, boucherie mondiale à laquelle vont collaborer de prétendus socialistes qui, des deux côtés du Rhin, trahissent les peuples et se rangent aux côtés des patronats et donc de la guerre. Rappel du paysage des alliances de 1914.
Alors, faut rappeler quand même les belligérants, hein. Entre l'Angleterre monarchiste, enfin l'Angleterre bourgeoise aussi, hein, la France bourgeoise et républicaine, et la Russie tsariste qui, comme on le sait, grattait beaucoup sa classe ouvrière, ses paysans et ses minorités nationales, on a quand même expliqué aux ouvriers qu'en groupant ces trois puissances, avec toute leur cohorte d'auxiliaires, dont à partir de 1915 l'Italie, on allait faire une guerre de la justice, une guerre révolutionnaire comparable à celle de l'an 2, ce qui était aussi grotesque sur le fond que les prétextes dont on a entouré la légitimité de la guerre du côté allemand. Du côté allemand, et c'est une donnée majeure de la violence antislave de l'Allemagne, y compris d'ailleurs de son mouvement ouvrier, de son SPD, et qui ne date pas de 1914, c'est comment le Parti social-démocrate a conquis les masses à sa bonne cause de la guerre juste. Là, c'était un peu délicat de dire guerre révolutionnaire. Ben, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait du côté social-démocrate? Eh bien, on a expliqué aux ouvriers que c'était une guerre de civilisation, de la civilisation germanique de grande qualité contre le tsarisme abominable de la Russie. Vous direz, des racines, on en a trouvé d'autres à la russophobie chez nous. Mais la racine de la russophobie en Allemagne, c'est évidemment le déploiement du pan-germanisme qui a affecté l'ensemble de la population, comme en France. C'est-à-dire que la conquête par la bourgeoisie de son peuple, elle est bien sûr aussi une conquête idéologique. C'est de faire croire en France, en Angleterre, que l'État est un État de civilisation contre ces nègres et ces asiatiques qu'on mène à la civilisation, et c'est de faire croire du côté germanique que la civilisation de qualité supérieure du Reich et de son allié est une civilisation qui s'impose à la Russie arriérée, retardataire, tsariste. Mais il faut se rappeler que dans les années 1890, la grande presse allemande expliquait benoîtement que c'était quand même très bête, cette Ukraine si riche, dont les villages étaient si miteux, alors que s'ils étaient exploités par le Grand Reich, évidemment, il serait en pleine prospérité. Tout ceci pour dire que, bien entendu, il y a une base matérielle de ce que j'ai appelé la corruption, mais il y a une base idéologique dont on ne saurait sous-estimer l'importance, parce que l'hégémonie idéologique, c'est une donnée très importante, et c'est toujours une donnée très importante. Mais dans une guerre, dans une boucherie pareille, qui aboutit à une grosse dizaine de millions de morts, sans parler des autres conséquences. Je pense notamment à la fameuse grippe espagnole.
Si 14-18 fait environ 20 millions de morts, militaires et civils, la première grande boucherie mondiale prépare un terrain de misère qui permettra les dizaines de millions de victimes de l'épidémie de grippe dite espagnole de 1918-1919 qui, selon certaines estimations, aurait provoqué entre 20 à 100 millions de décès.
Dans cette guerre, bien entendu, l'adhésion idéologique, elle a été majeure, comme elle est aujourd'hui toujours majeure. Ça montre aussi le caractère extrêmement contradictoire de la situation. Parce que finalement, quand on lit le livre de Lénine, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, tous ceux qui ont lu cet ouvrage disent, mais c'est sidérant, on croirait voir décrit le capitalisme d'aujourd'hui, avec des petites différences quand même, mais finalement, pas grand-chose n'a changé. Comment on est à la fois en 1916, alors que je dirais que la guerre a déjà presque donné l'essentiel de ce qu'elle est capable de provoquer comme ébranlement. On comprend que, du point de vue du mûrissement des conditions matérielles de la production, on comprend que, objectivement, le monde est mûr pour un changement de mode de production. Comment le capitalisme a montré déjà toutes ses limitations. On est un siècle plus tard, dans une situation infiniment plus grave du point de vue économique qu'elle ne l'était en 1914, et finalement ça ne bouge pas. Ça montre bien d'ailleurs comment, à côté évidemment de la corruption d'une partie importante de la population, enfin on se pose des questions quand on voit l'état actuel des États-Unis, les files d'attente pour pouvoir juste prendre un repas, les gens dans les tentes, on se dit, mais c'est pas possible, quoi, un siècle après, qu'est-ce qui est un frein si important? Et d'ailleurs, un frein qui a en partie régressé avec la fondation des partis communistes, parce que le mécontentement est si profond, l'atteinte a été si grave au statut des populations, qu'il y a, à partir de 1916-1917, il y a une véritable réaction des populations et un ras-le-bol tel que l'idéologie, qui est bien efficace, ne suffit plus. Hein, c'est à cause de cette situation, d'ailleurs, que le Parti socialiste doit, en France, quitter le navire et quitter ses strapontins ministériels. Bon, je disais tout à l'heure à quel point il était intéressant d'analyser le cas français, parce qu'avec le cas français, avec celui de la République bourgeoise, on se trouve presque dans le cas type, ce qui ne veut pas dire que le réformisme n'ait pas été puissant ailleurs, on le sait, hein, quand on connaît l'exemple anglais, l'exemple allemand et celui à peu près de toute l'Europe. Mais c'est un des cas les plus intéressants parce que c'est en France que l'alliance déclarée avec la République bourgeoise, avec l'État, a été la plus avancée. Pourquoi ? Dans la Russie autocratique, dans l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois autocratique, il n'y a pas du tout de participation ministérielle officielle d'un parti socialiste. Il y a une collaboration clandestine absolument considérable, considérable. L'activité essentielle de la majorité du Parti social-démocrate, celui qui allait rester SPD, alors que le parti fait scission à partir de 1917 entre Parti social-démocrate, SPD, et USPD, Parti social-démocrate indépendant, qui est une des origines du Parti communiste, cette majorité a passé la guerre à combattre sa minorité, pas à combattre les objectifs des Junkers et de leur expression militaire, à combattre les éléments révolutionnaires, combat tellement efficace d'ailleurs, qu'il aboutit en 1918 à l'alliance pure et simple entre la direction du Parti social-démocrate et ce qui est la quintessence de l'Ancien Régime, c'est-à-dire cette alliance de la grande bourgeoisie financière, industrielle et bancaire, des Junkers, grands propriétaires fonciers essentiellement à l'est de l'Elbe, et de leur expression, j'allais dire, politico-idéologique, et pas seulement politico-idéologique d'ailleurs, l'armée, puisque l'armée, sa direction est exclusivement issue pratiquement de cette classe des Junkers. Il faut avoir en tête ce que représente le phénomène de corruption au sens large, c'est-à-dire de maîtrise par les classes dirigeantes des dirigeants des partis ouvriers, pour mesurer que la révolution allemande est morte entre décembre 1918 et la liquidation des conseils de Munich entre mars et mai 1919, à cause donc d'une alliance entre les dirigeants du Parti social-démocrate et ce qui avait été l'armature de l'Allemagne wilhelminienne, de telle sorte d'ailleurs que toute l'histoire de l'Allemagne s'éclaire de cette collaboration clandestine qui a duré toute la guerre entre 1914 et 1918, toute la guerre entre le Parti social-démocrate et les privilégiés. On mesure là encore d'ailleurs à quel point ce rôle qui a pourtant été si clairement analysé dans les ouvrages de Gilbert Badia, Les Spartakistes, le livre de Badia, où Badia étudie par le menu l'organisation de l'écrasement de la révolution en Allemagne par cette alliance contre nature entre, d'une part, la direction du SPD qui donnait du camarade sans arrêt depuis novembre 1918 et qui, dans le secret des cabinets, préparait la répression effroyable qui est à l'origine directe du nazisme en Allemagne. L'idée dominante aujourd'hui, c'est que s'il y a eu Hitler, c'est à cause de ces voyous du Parti communiste allemand, hein, qui ont été toujours contre l'unité, enfin bref, les artisans de la scission. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
En 1919, les socialistes allemands au gouvernement organisent le massacre des communistes spartakistes. Par la suite, en refusant toute alliance avec les communistes, les socialistes allemands porteront une lourde responsabilité dans l'accession d'Hitler au pouvoir.
Auf deinem Friedrichsfelde ruht so manches tapferes Spartakusblut. Auf deinem Friedrichsfelde ruht so manches tapferes Spartakusblut.
Dans la France de 1920, les relations entre socialistes révolutionnaires et socialistes réformistes ne sont pas aussi sanglantes qu'en Allemagne, mais les contentieux sont lourds.
On sort de la Première Guerre mondiale avec une situation compliquée. D'une part, une mise en cause du socialisme aux mains rouges, qui va être à l'origine de la création au Congrès de Tours du Parti communiste. Mais on a des aspects très contradictoires. La solidité de l'alliance entre le sommet de la social-démocratie et la grande bourgeoisie, cette alliance a été consolidée. Elle ne cessera plus. Ça ne date pas de Strauss-Kahn, ça ne date pas de Hollande, ça ne date pas de leur héritier Macron. C'est bien entendu très antérieur. Tout ceci remonte à nettement plus d'un siècle, aux années 1890. Et donc, les transformations du mouvement social-démocrate et la naissance des partis communistes, elles sont une des conséquences d'autres résultats de la guerre. Parce que cette création des partis communistes, cette mise en cause officielle de ce qui est la question à l'ordre du jour pour le mouvement socialiste international posée en 1914, quand Lénine explique que la trahison par la Deuxième Internationale des objectifs qu'elle s'était officiellement fixés montre la faillite totale de la Deuxième Internationale. Et si la Deuxième Internationale a entièrement fait faillite, alors ça signifie qu'il faut en créer une autre. Et par conséquent, créer une Troisième Internationale qui va être en mesure de réaliser une mutation révolutionnaire des partis.
Voilà pour le cadre général qui va nous emmener au débat du congrès de Tours de 1920 qu'Annie Lacroix-Risse évoquera au prochain épisode de cette série, émission que tu peux réécouter sur notre site, polemix-et-la-voix-off.com. Avant qu'on ne se retrouve très vite sur cette même antenne, même lieu, même heure, ce n'est qu'un